Bonjour à chacun de vous, chers amis auditeurs, et merci de nous avoir rejoints pour notre rendez-vous hebdomadaire. Ma prière, c'est que ces moments que nous allons passer ensemble puissent vous regonfler spirituellement et vous apporter la force dont vous avez besoin pour faire face aux défis de la vie. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un miracle vraiment spécial, dont vous trouverez le compte-rendu dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 13. Je vous en fais la lecture. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Le miracle de cette résurrection spectaculaire s'est donc produit à travers les ossements d'Élisée, qui était un des plus grands prophètes d'Israël. Dans son livre intitulé « Bien plus qu'un charpentier », Josh McDowell consacre un chapitre au phénomène de la résurrection de Jésus. Après plus de 700 heures passées à étudier ce sujet et à faire une investigation complète du fondement sur lequel il repose, Josh est venu à la conclusion que la résurrection de Jésus-Christ est soit le canular le plus pervers, vicieux et inhumain jamais monté aux dépens de quelqu'un, soit l'événement le plus important de l'histoire. Vous me demandez, mais qu'est-ce que la résurrection de Jésus a en commun avec notre texte? Nous pouvons y voir au moins deux parallèles. Premièrement, Élisée est ce qu'on appelle un type du Seigneur Jésus. Nous voulons dire par là qu'Élisée possédait des caractéristiques qui font penser à Jésus-Christ. Élisée n'était pas seulement un puissant prophète, il est également un personnage prophétique. Il était dans un certain sens un précurseur du Sauveur du monde. Il existe donc effectivement certaines ressemblances entre Élisée et le Seigneur Jésus, qui lui était le plus grand prophète qui se soit jamais levé. Moïse avait prédit sa venue et son futur ministère de prophète en disant au peuple d'Israël, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Deuxièmement, notons qu'il est question ici d'une résurrection grâce à Élisée. En effet, ce fut grâce au prophète Élisée que le défunt que l'on avait jeté dans son sépulcre reprit vie. De même, Jésus, le meilleur Élisée, est garant de notre résurrection, aussi bien de notre résurrection spirituelle que physique. Pensons ici à cette merveilleuse déclaration de notre Sauveur. « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Les morts dont Jésus parle ici ne sont pas les morts physiques, ceux que vous pouvez trouver dans les cimetières. Non, il s'agit ici des morts spirituelles. Voyez-vous, chers amis auditeurs, à cause de nos péchés, nous sommes tous séparés d'avec Dieu et spirituellement morts à ses yeux. Nous avons donc besoin d'une véritable résurrection spirituelle, et c'est Jésus-Christ qui nous la garantit quand nous venons à lui dans une attitude de sincère repentance, déterminés d'abandonner notre vieille façon de vivre. « Monsieur, madame, êtes-vous ressuscité spirituellement? Avez-vous reçu la vie nouvelle que Dieu offre à chaque pécheur qui vient à lui ?» En analysant notre texte, nous constatons qu'il fallait la mort d'Élisée pour assurer la résurrection de cet homme dans notre histoire. Si Élisée n'était pas mort, il n'y aurait pas eu de tombeau, et en conséquence, le défunt n'aurait pas pu y être jeté. Dans un certain sens, c'est donc la mort d'Élisée qui a assuré la résurrection de ce défunt. Faisons-en une application. Si Jésus, le meilleur Élisée, n'était pas mort, il n'y aurait pas non plus de vie pour nous. La mort du Fils de Dieu était indispensable pour nous assurer la vie dans toute sa plénitude. Vie nouvelle, éternelle, divine, abondante. Il est important de savoir que la mort de Jésus à la croix n'était pas un accident ou le fruit d'une erreur judiciaire. Sa mort était prédite, annoncée des milliers d'années avant sa venue et voulue de Dieu. Ainsi, l'apôtre Pierre parlant de Jésus en tant qu'agneau de Dieu sans défaut et sans tache, nous apprend qu'il avait été prédestiné avant la fondation du monde à cause de vous. Quant à Caïphe, qui était souverain sacrificateur au moment de la mort de Jésus, il a fait à ses contemporains le reproche suivant. Vous ne réfléchissez pas et qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Nous sommes confrontés ici avec un principe divin. Il faut la mort pour produire la vie. Jésus a déclaré, « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » C'était lui, Jésus, ce grain de blé, et il a effectivement goûté la mort à notre place, afin de nous assurer la vie éternelle. Il fallait impérativement sa mort pour que sa vie puisse se manifester en nous. Notons ensuite que le prophète Élisée avait un ministère qui allait au-delà du tombeau. Aussi étrange que cela puisse nous paraître, nous avons ici toutes les évidences que la mort n'avait pas mis un terme au ministère miraculeux d'Élisée. La même vérité s'applique aussi à Jésus, mais dans une mesure infiniment plus grande. Il suffit de lire les Actes des Apôtres, cinquième livre de notre Nouveau Testament, pour vous en rendre compte. Nous y lisons « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ces miracles et ces prodiges se faisaient au nom du Seigneur Jésus, et étaient la preuve vivante que Jésus était bel et bien ressuscité. » La Bible dit d'ailleurs, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est donc tout à fait capable d'intervenir dans votre vie, de changer vos circonstances et de vous toucher dans votre être tout entier, même si cela nécessite un véritable miracle. Croyez-le, chers amis auditeurs, et demandez-le-lui. En examinant notre récit, nous constatons qu'Élisée avait un véritable ministère de vie. Ceci peut certainement aussi être dit de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il s'est continuellement présenté à ses contemporains comme étant la vie, vie avec un V majuscule. Il a déclaré, « Je suis le pain de vie, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Les hommes et les femmes pécheurs, dissolus, qui ont été radicalement transformés par la puissance illimitée de Jésus-Christ, sont la meilleure preuve de la réalité de sa résurrection et de son ministère de vie. Monsieur, madame, avez-vous eu cette rencontre transformatrice avec Jésus, lui qui se nomme « la vie » Si tel n'est pas encore le cas, ne tardez pas à venir à lui et à lui demander de vous faire passer de la mort à la vie. Je vous garantis, vous ne serez plus jamais les mêmes. En redonnant la vie à ce défunt au simple contact avec les eaux d'Élysée, Dieu a accompli quelque chose de nouveau, d'inattendu, de surnaturel, d'insolite. Dans les apocryphes, nous trouvons la déclaration suivante au sujet du prophète Élisée. Rien n'était trop grand pour lui, et jusque dans la mort, son corps prophétisa. Pendant sa vie, il faisait des prodiges, et dans sa mort, ses œuvres furent merveilleuses. Si l'on peut rendre un tel témoignage d'un simple homme mortel, à combien plus forte raison ces paroles s'appliquent-elles à Jésus, le Fils de Dieu? Rien n'était trop grand pour lui pendant son ministère exceptionnel. Et parce qu'il est ressuscité, il continue à accomplir des miracles, des prodiges et des signes. Aussi pouvons-nous nous attendre à des choses surprenantes de sa part. Amis auditeurs, parcourez les évangiles et admirez les miracles, les signes et les prodiges que le Seigneur Jésus a accomplis de son vivant. Vous comprendrez alors pourquoi ses contemporains étaient continuellement dans l'admiration devant une telle démonstration de puissance et de gloire. La bonne nouvelle, c'est qu'il continue à manifester sa merveilleuse puissance de résurrection. Dans une de ses prédications, l'apôtre Pierre a annoncé « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Souvenez-vous de toutes ces merveilles glorieuses et insolites qu'il a accomplies pendant son ministère terrestre. Il a changé l'eau en vin, multiplié les 5 pains et les 2 poissons, purifié les lépreux et ressuscité des morts. Il a marché sur l'eau et apaisé la tempête. Il a libéré les démoniaques et guéri des malades à distance. Ces miracles étaient toujours différents, nouveaux, insolites, inattendus et surprenants. Nous sommes certainement épatés par le ministère de la résurrection de ce mort dans notre histoire, au simple contact avec les eaux du prophète Élisée. Mais rappelez-vous, Jésus-Christ est infiniment plus grand, et il est capable d'intervenir dans votre situation et de vous surprendre par sa divine intervention. J'aimerais évoquer un dernier message que notre petit récit transmet, et ce n'est pas le moindre, le voici. Ne sous-estimez jamais l'adversité. Avez-vous remarqué que le miracle de la résurrection de cet homme a eu lieu à cause de l'invasion d'une troupe de Moabites? Surpris par ces intrus aux mauvaises intentions, les membres du cortège funèbre n'avaient qu'un seul désir, fuir devant l'ennemi pour sauver leur vie. Mais que fallait-il faire avec le défunt? Se trouvant tout près du sépulcre du grand prophète Élisée, ils ont décidé de le déposer là. Existait-il une solution plus appropriée que celle-là? Ce fut ainsi que le mort, jeté en toute hâte par ses proches dans la tombe du prophète, entra en contact avec ses ossements et fut miraculeusement ressuscité. Ce que nous devons retenir, c'est que les Moabites, ennemis du peuple de Dieu, étaient à la base de ce miracle. Autrement dit, un mal a engendré un bien. L'adversité s'est avérée être une véritable bénédiction. Nous sommes confrontés ici à un principe que nous voyons agir à travers la Bible et que nous ne devons surtout plus jamais oublier. Cette vérité s'applique également à la mort de Jésus. Pour ses apôtres et ses disciples, sa mort était d'abord une véritable tragédie. Leur monde s'était écroulé en voyant leur héros cloué sur une croix. Mais après la résurrection du Fils de Dieu, ses disciples ont enfin compris qu'il fallait sa mort pour que sa vie se manifeste. Le plus grand des maux s'est révélé être le plus grand des biens. Jésus est devenu malédiction pour nous, afin que nous ayons part à toutes les bénédictions de Dieu. Retenez bien cette vérité, chers amis auditeurs. Il faut parfois l'adversité et l'opposition pour qu'un bien se manifeste. Joseph, fils du patriarche Jacob, a dû apprendre cette leçon. Après avoir été trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé, puis emprisonné, il a connu subitement une ascension fulgurante, et il a fini par devenir le sauveur de l'Égypte et de sa propre famille. Avec du recul, Joseph a pu dire à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Cette opposition que vous rencontrez actuellement, cette adversité à laquelle vous êtes confronté, Dieu peut la transformer en bien pour vous, aussi impossible que cela vous paraisse. Il se peut même que cela fasse partie du plan de Dieu pour votre vie. Prenez aujourd'hui un moment et lisez pour vous-même ce magnifique récit dans 2 Rois, chapitre 13, les versets 20 et 21. Ma prière, c'est que le Seigneur répande sa grâce sur vous et vous attire à lui. J'espère que la semaine prochaine, je pourrai une nouvelle fois vous compter parmi mes auditeurs. À bientôt. Que le sourire de Dieu éclaire votre vie.